ai fait peur. Hein. Bonsoir, ouais, Fabienne Sintès.
J'allais dire, vous avez attendu le troisième jour, mais quand même. J'étais préparée, Charline. J'étais préparée. Allez, merci beaucoup. Je vous embrasse, les amis.
Bisous.
À demain. Pour nous, c'est parti. Le 18-20, France Inter est ouvert. Attention à la fermeture des portes et soyez les bienvenus sur la planète et sa banlieue. Le 18-20, c'est d'abord ce que vous devez retenir de cette journée du mercredi 1er septembre avec le journal de Sébastien Legénie. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
L'essentiel commence avec un président au chevet de la deuxième ville de France.
Emmanuel Macron en visite pendant trois jours à Marseille pour écouter, pour signer des chèques également. Première déambulation, première rencontre avec les élus, les habitants. Cet après-midi, notamment dans les quartiers nord, nous serons sur place à Marseille dans un instant. L'actualité aujourd'hui, c'est aussi l'exécutif qui reçoit les syndicats à Matignon et qui hésite à remettre sur la table la réforme explosive des retraites, explication du service politique. À suivre également la rentrée des professeurs, ambiance volontaire mais plombée, on l'entendra par le Covid. Le témoignage d'un animateur qui refuse de se faire vacciner et qui s'est procuré un faux QR code. Les catastrophes naturelles de plus en plus nombreuses et de plus en plus coûteuses. Et pour finir, la Nouvelle-Calédonie qui célèbre la mémoire du premier révolutionnaire kanak.
À 18h15, un jour dans le monde ce soir en Tunisie. La Tunisie qui nous a scotché cet été avec la prise des pleins pouvoirs par le président en exercice. Il a limogé tout ce qui l'entourait, et donc les représentants du parti islamiste Ennahda, avec l'approbation d'une population exténuée. Où en sommes-nous maintenant? Vers quoi va la Tunisie? On y vient avec le premier invité ce soir. À 19h20, c'est le téléphone sonne à la veille de la rentrée. Il reste des questions autour de ce protocole 2 auquel sont soumis vos enfants primaires et secondaires. Tout le monde est bien content, évidemment, de retourner en présentiel. Mais c'est vrai aussi qu'on se demande un peu comment ça va s'organiser, notamment en cas de flambée de l'épidémie chez les plus jeunes. Vos questions, vos réflexions, vous connaissez le chemin. 01 45 24 7000.
France Inter.
C'est donc la visite la plus longue dans une ville de France depuis qu'il est au pouvoir.
Le président est arrivé cet après-midi à la mairie de Marseille. Début d'une visite de trois jours lors de laquelle le chef de l'État doit présenter un plan global pour tenter de faire face aux difficultés de la cité phocéenne. Insécurité, logement, transport. Emmanuel Macron a l'intention de prendre son temps mais aussi de sortir le carnet de chèques. Au programme aujourd'hui, rencontre avec les habitants des quartiers nord de la ville rongés par le trafic de drogue. Le président qui vient d'arriver sur place, un bain de foule est en cours dans la cité de Bassins. Et puis, juste avant, échange avec des élus des Bouches-du-Rhône. Bonsoir Simon Le Baron.
Bonsoir.
Vous suivez, Simon, cette visite pour France Inter. Emmanuel Macron qui sort juste de cette réunion avec les élus, lors de laquelle Jean-Luc Mélenchon était présent.
Oui, et devinez quoi, Sébastien? Eh bien, il fallait s'y attendre. Cette rencontre a pris des allures d'affrontement de campagne. Jean-Luc Mélenchon, député des Bouches-du-Rhône et candidat déclaré pour 2022, accusant Emmanuel Macron de venir ici à Marseille avec en tête 2022.
Je supporte pas ça. Le gars qui arrive, on est à 8 mois de l'élection présidentielle. Tout le monde comprend qu'il est en campagne électorale. On est tous priés de faire semblant de ne pas l'avoir vu. Bon, il y a quand même quelque chose d'insupportablement monarchique dans tout ça.
Et c'est vrai, jamais un président de la République n'avait à ce point personnalisé, personnifié l'implication de l'État en faveur d'une ville, et pas n'importe quelle ville, la deuxième de France, réservoir potentiel de centaines de milliers de voix. Alors Emmanuel Macron, en campagne? Oui. Et alors, répond la présidente. Présidente LR de la métropole, Martine Vassal.
Vous savez, un politique, il est en campagne tout le temps. C'est quand même assez la première fois qu'on entend un président de la République écouter autant les parlementaires et tous les acteurs du territoire. Donc maintenant, on attend avec impatience les annonces de demain soir.
Des annonces pour l'éducation, pour les transports, le logement et la sécurité, sujet favori de la droite, sur lequel Emmanuel Macron veut s'afficher en première ligne, et il n'oublie pas de le mettre en scène. Il prend en ce moment même, Sébastien, vous l'avez dit, un bain de foule dans une cité des quartiers nord.
Simon Le Baron, avec les moyens techniques de Romain Luquien, en direct de Marseille. Merci, suite de la visite tout à l'heure du président dans un commissariat du nord de Marseille, et puis demain, rentrée des classes dans une école des quartiers nord. On reste dans les Bouches-du-Rhône avec la démission de la maire LR d'Aix-en-Provence, Maryse Joissin, après 20 ans passés à la tête de la municipalité. Maryse Joissin qui dit partir pour des raisons de santé, mais qui est aussi sous la menace d'une peine de 3 ans d'inéligibilité. La Cour de cassation doit rendre son arrêt ce mois-ci. La politique encore avec Jean Castex, le Premier ministre, qui lui a commencé cet après-midi son tour d'horizon des sujets sociaux avec les syndicats. Rencontre avec chacun des leaders des centrales jusqu'à vendredi. Aujourd'hui, c'était au tour de la CFDT, de FO, de la CFE-CGC. Sur la table, l'emploi, la croissance, l'assurance chômage, mais aussi les retraites. retraites. Alors, justement, le gouvernement va-t-il remettre cette réforme à l'ordre du jour, critiquée, on le sait, par tous les syndicats. En cette rentrée, en tout cas, Yael Gauz, l'exécutif est un peu comme gêné aux entournures.
Oui, parce que tout repose sur l'équation exposée le 12 juillet dernier par Emmanuel Macron. La réforme des retraites, oui, si l'épidémie est derrière nous et si l'économie repart. Un feu qui passe du rouge au orange pour le sanitaire, au vert pour la reprise. Comme Bruno Le Maire, la semaine dernière, le porte-parole du gouvernement fait souffler un vent d'optimisme. Gabriel Attal, cet après-midi, à l'issue du Conseil des ministres.
Les résultats sont là, vous le savez, notre pays a d'ores et déjà retrouvé son taux de chômage d'avant-crise, de même que la prévision de croissance pour notre pays à 6% est aussi un signal extrêmement positif.
Mais alors, Sébastien, si tout repart, qu'est-ce qui empêche de réformer jusqu'au dernier quart d'heure, selon la formule consacrée à l'Élysée, et donc de faire les retraites?
J'aimerais pouvoir vous dire quand, d'ici à la fin du quinquennat, nous considérons que la crise sanitaire sera définitivement derrière nous. Je ne suis pas capable de vous répondre.
Dans l'équation, l'inconnu Covid n'est pas levé, donc c'est ni oui ni non pour les retraites, c'est discuter avec les partenaires sociaux qui n'en veulent pas, mais sans calendrier, les retraites qui ne sont plus la mère des réformes, étonnante confidence d'un conseiller haut placé à l'Élysée. On phosphore de plus en plus sur les salaires, sur les embauches, les deux grands sujets de la rentrée sociale, manif le 5 octobre, et un calendrier revisité pour l'exécutif, décalé d'un mois, c'est seulement après cette manif que le plan d'investissement France 2030 sera dévoilé, avec peut-être d'autres mesures dans le panier.
Yael Gauz, merci, chef du service politique de France Inter. Lui va-t-il en profiter pour préparer une possible candidature à la présidentielle? Éric Zemmour va quitter le Figaro pour quelque temps. L'éditorialiste n'écrira plus sa chronique chaque semaine, le temps, dit-il, de la promotion de son prochain livre à paraître mi-septembre.
Ils ont repris le chemin de l'école aujourd'hui.
Les 869 000 professeurs se sont retrouvés aujourd'hui pour préparer leur rentrée. Demain matin, ils accueilleront 12 millions d'écoliers, de collégiens, de lycéens, dans un contexte toujours tendu à cause de la crise sanitaire, masque à l'intérieur et risque de fermeture de classe. Alors, à la veille de cette reprise, quel est le moral des troupes? Un mélange d'enthousiasme et d'inquiétude. Sonia Princey a tendu son micro à Sandra David, Alissand et Daoud, enseignant au lycée Louis-Armand à Aubonne, dans le Val d'Oise.
Ce sera certainement perturbé par des fermetures de classe en raison de contamination ou autre, mais on est prof, on s'adapte, on fera comme les autres années.
On fait une gymnastique en permanence avec les règles sanitaires. Bon, on n'a pas le choix en fait. On est tout le temps dans l'adaptation, ça fait 2 ans qu'on fait de l'adaptation.
Donc voilà, on passera au distanciel s'il faut passer au distanciel. J'ai prévu des séquences que je puisse effectuer en classe et que je puisse modifier rapidement au pied levé pour les faire en distanciel.
C'est un peu stressant parce que du coup j'ai des premières, donc des élèves qui préparent le bac alors que c'est ma première année et que je suis relativement jeune, mais j'aborde l'entrée avec enthousiasme, on va dire.
On est content d'être là, c'est sûr, mais c'est tout à fait normal d'avoir des inquiétudes. Maintenant, comme tout le monde, on a un peu d'expérience par rapport justement à cette crise et donc on va essayer de faire ce qu'il faut pour pouvoir accueillir les élèves et pouvoir travailler dans des meilleures conditions par rapport aux années précédentes.
Voilà, des propos recueillis par Sonia Princey. Ajoutons que près de 9 professeurs sur 10 sont vaccinés en cette rentrée, 78% avec 2 doses et 11% avec une seule injection. Au chapitre vaccination encore, c'est un témoignage rare que l'on vous propose ce soir sur Inter. Alors que le pass sanitaire obligatoire entre en vigueur en ce moment pour de nombreuses professions, certains salariés anti-vax n'hésitent pas à acheter de faux certificats de vaccination à l'insu de leur employeur pour éviter de se faire vacciner, éviter de se faire licencier. L'un d'eux a accepté de témoigner au micro de Philippe Randet de la cellule investigation de Radio France.
24 heures top chrono, c'est le temps qu'il a fallu à Corentin, 31 ans, pour obtenir son vrai faux QR code.
J'ai une connaissance qui m'a donné un contact sur un réseau social. Elle m'a dit, tu me donnes nom, prénom, date de naissance. Et bah, le lendemain matin, je recevais un mail de la part de Amélie, la sécu, qui me disait que j'avais mon attestation de vaccination.
Et combien vous avez payé?
Bon, c'est aux alentours de 300 euros, et puis après, soit on peut payer par Internet, ou alors moi, je l'ai payé en réel.
Un intermédiaire, donc, qui transmet à un professionnel de santé un nom, prénom, date de naissance et numéro de sécurité sociale. Ce dernier entre les coordonnées sur la plateforme de vaccination, et le tour est joué. Corentin, éducateur auprès des enfants et des adolescents, explique que c'est l'obligation à venir du pass sanitaire dans son travail qui l'a poussé à frauder.
C'est vraiment la première fois de ma vie que je fais un travail où je suis heureux quand je vais travailler. Donc moi, concrètement, ne plus aller au restaurant, ne plus aller au cinéma, je m'en fous. C'est vraiment uniquement pour mon emploi que je l'ai fait.
Mais vous n'avez pas le sentiment de représenter un danger pour les enfants que vous encadrez, par exemple?
Alors moi, j'ai pas du tout ce sentiment, parce que déjà, quand on est vacciné, on peut toujours être porteur du virus et le transmettre. C'est pas un vaccin anti-Covid, c'est un vaccin anti-forme grave du Covid.
Et Corentin de conclure, pour moi, ce faux QR code, c'est un acte de résistance.
Philippe Rendez, le pass sanitaire qui pose aussi problème pour des dizaines de centres commerciaux où l'obligation a fait chuter la fréquentation. On en parlait hier dans ce journal. Le tribunal administratif de Paris avait été saisi pour suspendre le pass dans les grands magasins. Demande rejetée par les juges parisiens, contrairement à d'autres départements comme les Yvelines, l'Essonne ou encore les Hauts-de-Seine. On est rendu compte cet été avec des incendies et des inondations monstres aux quatre coins du globe. Les catastrophes naturelles sont de plus en plus nombreuses. Une agence de l'ONU a chiffré le phénomène. Le nombre de catastrophes naturelles a été multiplié par 5 en 50 ans entre 70 et 2019. Entre 1970 et 2019, 2 millions de morts au total. Bonsoir Sandy Dauphin.
Bonsoir.
Ces dernières années, le nombre de victimes a en fait baissé grâce à de meilleurs systèmes d'alerte, mais c'est le coût des catastrophes qui explose.
Oui, 3 000 milliards d'euros de dégâts, c'est le bilan matériel des tempêtes, inondations, sécheresses, canicules de ces 50 dernières années. Le coût de ces désastres a été multiplié par 7 depuis les années 70, à la fois parce que l'on mesure mieux leur impact, plus de victimes sont assurées, mais aussi parce que les populations sont davantage exposées, explique Alix Roumaniac, président de la société Prédict, la filiale risque de Météo France.
Une exposition qui a augmenté, beaucoup plus de populations qu'il y a 50 ans, beaucoup plus de populations qui sont dans des zones à risque. Et on a aussi une augmentation de la couverture en assurance aussi, chiffrée par les réassureurs. Donc ce sont des phénomènes qui vont malheureusement tous dans le même sens. Plus de catastrophes, plus d'exposition, plus de vulnérabilité et plus d'enjeux économiques exposés et assurés.
Les tempêtes sont les catastrophes météorologiques les plus coûteuses. Les États-Unis détiennent le record. En 2005, la tempête Katrina qui a dévasté la Nouvelle-Orléans a fait 164 milliards de dollars de dégâts. Et l'ouragan Ida qui vient de balayer la Louisiane pourrait coûter encore plus cher, de gros dégâts notamment sur le réseau électrique.
Sandy Dauphin, merci. En Afghanistan, cet appel du Qatar, interlocuteur privilégié des talibans, qui leur demande de dégager un passage sûr pour les personnes souhaitant quitter le pays.
On termine en Nouvelle-Calédonie avec l'histoire méconnue d'un véritable héros local.
L'histoire du chef de guerre Atai, premier révolutionnaire kanak, tué lors de l'insurrection de 1878 contre les colons, près d'un siècle et demi après sa mort. Eh bien, sa dépouille a enfin été inhumée en Nouvelle-Calédonie. Bonsoir Mélanie Juvet.
Bonsoir.
Il s'agit là d'un acte hautement symbolique, un acte d'apaisement à 4 mois du référendum sur l'autodétermination.
Tout à fait. À plus d'une centaine de kilomètres au nord de Nouméa, le crâne du chef de guerre Atai et de son Dao, son sorcier, restitué par l'État il y a 7 ans, sont inhumés dans un caveau proche de la case aujourd'hui détruite de cette icône de l'insurrection kanak. Méconnu en métropole, Atai est un personnage controversé, décrit à la fois comme sanguinaire, révolutionnaire, fin tacticien. En 1878, cet enfant du clan Daweri prend la tête de l'un des soulèvements qui va embraser la colonie française. La cérémonie d'aujourd'hui constitue le point d'orgue d'un travail de mémoire entamé il y a 15 ans. Louis Mapou, président du gouvernement néo-calédonien, et Yvon Kona, le nouveau président du Sénat coutumier, rendent hommage au chef de guerre.
Ce mémorial de l'insurrection met en lumière le grand chef, mais il doit également mettre en lumière l'ensemble des victimes de l'insurrection de 1878.
Un peuple qui ne connaît pas son histoire est obligé de la revivre. Les 143 ans qui viennent de passer là, j'ai pas trop envie de revivre ça.
Des propos captés par nos confrères de Nouvelle-Calédonie la première, le retour des reliques d'Atai dans sa terre natale participe à une démarche de réconciliation 4 mois avant un troisième référendum d'autodétermination.
Mélanie Juvet, un dernier mot de sport, 39 médailles au compteur des athlètes français aux Jeux Paralympiques de Tokyo, dernière en date le bronze avec le nageur Hugo Didier sur le 200 mètres 4 nages, en revanche le porte-drapeau de la délégation française, le tennisman en fauteuil Stéphane Houdet lui a été éliminé en quart de finale. Et puis n'oubliez pas ce soir le retour des Bleus en compétition, c'est du football, Fabienne, vous le saviez. Mm-hmm. France-Bosnie en match de qualification pour le Mondial 2022, c'est à 20h45 et ce sera sans les milieux de terrain Corentin Tolisso, N'Golo Kanté, blessé, forfait pour les 3 prochains matchs.
Eh bien, évidemment que je le savais. Sébastien, merci pour le journal. À tout de suite dans Un jour dans le monde sous les radars. Je ne déflore rien de ce braquage au Brésil que vous allez nous raconter, mais c'est quand même incroyable et très effrayant. Aussi, nous allons en Australie également, qui voit les limites de sa stratégie zéro Covid. Et puis, nous sommes en Tunisie, après l'épisode majeur de l'été, quand le président tunisien a pris les pleins pouvoirs. Où en sommes-nous aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut imaginer de la suite? Et puis, en deuxième heure, c'est le téléphone sonne. Vous le savez, à la veille de la rentrée, une rentrée en protocole 2, ça veut dire presque presque normal pour vos enfants dans le primaire et dans le secondaire, mais dans presque normal. Il y a presque et beaucoup de questions encore auxquelles on essaiera de répondre ensemble au 01 45 24 7000. Et sinon, rentrer sous le soleil ou pas, on le sait maintenant.